Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous voilà de retour, c'est RMC, le week-end des experts, comme chaque samedi et dimanche. Et jusqu'à 8h, c'est votre rendez-vous avec les animaux. Et Laetitia Barlerin qui est à mes côtés. Laetitia, tout à l'heure, on découvrira ce bébé panda qui... Alors... selon toute vraisemblance, et si tout va bien, devrait arriver au zoo de Beauval. Ça serait le premier bébé panda en français.
France. En France. Mais il ne va pas rester en France.
C'est pas vrai?
Oui, on en parlera justement tout à l'heure.
Oh là là, c'est quel dommage.
Eh oui. Bon. Enfin, il va rester en France un certain temps
quand même.
Oui, oui, oui. Non, mais voilà.
Est-ce qu'il aura ses papiers?
Normalement, il aura un passeport chinois et pas français.
Mon Dieu, c'est compliqué cette histoire.
Oui.
Bon, on verra ça tout à l'heure, attendez. L'actualité juridique aussi de cet été avec Maître Xavier Baquet, avocat à la Cour et vous le savez, de la Fondation 30 millions d'amis, il sera avec nous. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va observer la nature en été, c'est les vacances, on a le temps. Communion avec la nature, s'il vous plaît.
Et nous sommes avec Marc Giraud, qui est journaliste naturaliste et auteur d'un livre qui vient d'être publié aux éditions Alary, La nature au fil des saisons. Marc, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Marc.
Alors, c'est vrai que la nature, elle est passionnante à observer au fil des saisons. Donc, c'est ce qu'on apprend dans ce livre. Hein. Intéressons-nous alors aux animaux que l'on peut rencontrer en été, bien sûr. On va commencer par les petites bêtes. Alors, tout à l'heure, dans le quiz de la vie privée des animaux, je parlais du cousin, donc ce faux moustique. Mais il y a des vrais moustiques qui nous embêtent. Alors, la question qu'on se pose tout le temps, c'est à quoi peuvent bien servir les moustiques à part nous embêter?
C'est vrai que c'est des casse-pieds, mais ils sont aussi utiles.
Ah bah, ils sont
tous les parasites, c'est comme les prédateurs, en fait. Ils surveillent les populations d'animaux qui sont en surplus. Et la population animale qui est en surplus sur la Terre, c'est justement nous. Donc on a des soucis à se faire. Les moustiques sont là, c'est un fléau pour l'humanité.
C'est sûr.
Mais c'est aussi un animal très intéressant et utile. D'abord, les larves de moustiques nourrissent les poissons qui nous nourrissent. Les moustiques nourrissent les oiseaux aussi qui nous nourrissent ou qui font notre bonheur.
Oui.
Et en plus, chaque petite larve de moustique filtre 2 litres d'eau par jour. Donc ça fait des milliards de petits filtres, ça fait des véritables stations de bio-épuration dans la nature. Donc ils ont leur rôle, effectivement.
Ça veut dire que, ils jouent un rôle dans la filtration de l'eau, les moustiques. C'est incroyable, quoi. Parce que
l'eau serait pas si pure sans les moustiques.
Ah bah comme quoi, c'est bien de changer un petit peu l'image du moustique quand même qui nous embête.
Voilà, alors il n'y a pas d'association de protection des moustiques.
Ben non,
on
pas encore.
On a s'en protéger. On est une espèce comme les autres, mais avec des produits bio, c'est mieux que de s'empoisonner soi-même, quoi.
C'est sûr. Alors parlons aussi des papillons parce que ce qu'on remarque beaucoup le soir, quand on est dehors en train de regarder le ciel étoilé, c'est que les papillons cherchent la lumière. Alors pourquoi les papillons sont en train de voler autour des lampadaires?
Mais vous avez raison de dire que ce sont les papillons, parce que souvent on croit que la lumière attire les moustiques. Les moustiques, ils piquent dans la nuit. Hein. Moi je me balade souvent, hier soir j'étais un naturenard, je me suis fait piquer, c'était dans le noir. Donc ça n'attire effectivement que les papillons.
D'accord. Oui.
Parce que les papillons se dirigent à la Lune. Et quand vous êtes à grande vitesse, par exemple dans un train à grande vitesse, et que vous regardez la Lune, elle ne bouge pas. Donc c'est un repère fixe. Mais quand un papillon passe à côté d'un lampadaire qu'il prend pour la Lune, la lumière bouge. Donc il comprend rien. Il revient vers lui pour retrouver son repère et ça bouge dans l'autre sens. Donc il repart dans l'autre sens et encore dans l'autre sens jusqu'à la folie. Quoi. Il tourne autour du truc, il comprend plus rien. Ils sont complètement désorientés.
Mais ça veut dire qu'ils peuvent mourir sous le lampadaire à toujours tourner autour.
Ah bah oui, absolument, ils se grillent.
Bien sûr, c'est vrai, parce que c'est vrai que la chaleur de l'ampoule.
Oui.
Et ah c'est oui, incroyable. Quand c'est des bougies dehors qu'on veut mettre un peu d'ambiance, les moustiques, ils se grillent les ailes.
Hein. Et bien dire que c'est pas parce qu'on allume la lumière dans la chambre que le moustique arrive. Hein. C'est
voilà,
parce
absolument.
Que la fenêtre est ouverte qu'il arrive, c'est pour ça.
Oui, et puis il y a de moins en moins d'insectes aujourd'hui à cause des pesticides. Et si vous avez des chauves-souris, elles font un insecticide gratuit et non polluant.
Et voilà, si vous voulez pas avoir de moustiques, au lieu de prendre des bombes qui font bzzz, ou je sais pas,
ouais,
voilà,
ouais.
vaut mieux pour privilégier les chauves-souris. Alors, parlons aussi des rampants. Parce que on peut croiser des rampants comme des vipères, mais surtout des couleuvres, hein, et la couleuvre à collier que l'on peut croiser en été. Alors d'abord, comment reconnaître la couleuvre à collier et pourquoi on l'appelle la comédienne?
Alors quand on rencontre un serpent, c'est presque toujours une couleuvre, hein. Probablement une couleuvre à collier, c'est notre serpent le plus courant. Donc oui. les couleuvres, alors évidemment, il faut s'approcher, elles ont la pupille ronde et non pas verticale comme les vipères. Mais de loin, ça fait une sorte de tuyau et c'est très long, alors
très long.
Qu'une vipère, c'est très épais et la queue se rétrécit très vite. Donc on voit de loin si c'est une couleuvre ou une vipère. Hein. Donc la couleuvre à collier, elle a une astuce. Quand on l'approche, elle se met sur le dos. Donc c'est pas naturel, elle ouvre la gueule, elle ne bouge plus, elle fait la morte, et en plus, elle dégage une odeur de pourriture, comme si elle était morte depuis longtemps.
Ça c'est fort quand même.
C'est très spectaculaire,
c'est
sauf
incroyable.
Que si vous lui faites peur, elle va un peu plus loin et elle recommence, mais là on n'y croit plus, hein.
Ah, c'est-à-dire elle peut le faire plusieurs fois de suite, quoi.
Oui, là on y croit.
Elle répète sa prestation dans le film, quoi. Mais ouais. C'est incroyable qu'elle dégage comme ça une odeur.
C'est dingue.
De cadavre.
Alors elle a toujours le cloaque rempli et j'en ai fait l'expérience. Je peux vous dire que ça tient 2 ou 3 jours. Quand vous attrapez une couleuvre, elle vous lâche. Comme ça mange beaucoup de poissons, elle vous lâche ses odeurs de poissons pourris et c'est tenace. Hein. Donc, n'attrapez pas les couleuvres, laissez-les tranquilles.
Comme quoi, faut laisser tranquille
oui, la
les
couleuvre,
couleuvres.
On la laisse tranquille.
Voilà.
Ça m'apprendra.
Alors, puisqu'on parle de couleuvres, une des grandes peurs quand même des randonneurs en été, c'est de se retrouver nez à nez avec une vipère. Alors, il existe quand même, bon, comme on vient de le dire, c'est rare par rapport au nombre de couleuvres qu'on peut rencontrer. Mais en plus, il y a beaucoup d'idées reçues sur les vipères.
Bah oui, alors peur de les rencontrer, moi je cours après avec mon appareil photo, j'ai du mal, hein, parce que c'est quand même un animal très timide.
Qui a peur de l'homme.
Bah oui, il faudrait vraiment l'embêter pour qu'elle morde. Hein. Et en plus souvent ça mord à sec parce que ça économise son venin.
Oui, c'est vrai.
Donc alors justement à cause du venin, ça a donné plein d'idées reçues et notamment que les vipères fascinent leur proie.
Ah oui.
Ça c'est absolument faux.
Comme dans le livre de la jungle.
Voilà, ayez confiance. Mais vous pouvez avoir confiance. En fait, ce qui se passe, c'est que la vipère mord sa proie.
Oui.
Mais qui ne meurt pas tout de suite. Hein. C'est long quand même, le venin, c'est pas foudroyant.
Oui.
Donc la proie continue de se balader un peu et la vipère la suit.
Oh mon Dieu.
Et elle la regarde jusqu'à temps qu'elle meurt. Et si vous arrivez à ce moment-là, vous voyez une vipère avec ses yeux verticaux, là, ses pupilles verticales très très impressionnantes, qui regarde une souris et tout d'un coup la souris, paf, elle meurt. Donc on pense qu'elle a fasciné sa proie, mais c'est absolument pas vrai.
D'accord.
C'est qu'elle vient de la mordre justement et qu'elle attend que le venin fasse effet.
C'est terrible.
C'est horrible. Hein. Alors on a pour ceux qui sont bien sûr sur les plages, le grand problème. Ce qui peut gâcher un petit peu nos vacances, ce sont quand même les méduses.
Ah oui, c'est l'effet boomerang de nos activités.
C'est-à-dire
c'est le résultat de la surpêche. On a tellement vidé la mer de ces poissons qu'il y a une place écologique libre pour manger le plancton et tout ça. C'est les méduses qui font le boulot. Donc elles prolifèrent à cause de ça.
Donc à cause de nous.
C'est-à-dire oui, absolument.
On n'en veut pas, mais elles prolifèrent à cause de nous.
Ben voilà, comme vous êtes au bord de la mer, vous mangez un poisson grillé, et en fait, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver quand vous mettrez un pied dans l'eau. C'est l'effet boomerang de nos activités, ouais.
Ouais, c'est vrai que la méduse grillée, en plus, c'est moins bon. Hein.
Alors, ça se mange. Hein,
certaines
se mangent.
En Chine, ça se mange, c'est quelque chose d'assez
courant. C'est pas mauvais, d'ailleurs, avec de l'huile de sésame, mais bon, je vais pas vous donner la recette.
Non. Faut pas se tromper de méduse, parce qu'après on a la langue qui enfle un peu.
Voilà, c'est ça, faut surtout pas se tromper.
Alors que conseillez-vous de faire si on est piqué par une méduse?
Alors,
et de pas faire. Alors est-ce qu'il faut faire pipi dessus?
Non, il y a plein. Alors là, c'est vrai que là on est dans un catalogue d'idées reçues sur les animaux, sur tout ce qu'il faut faire. Faut pas frotter, évidemment, parce que ça ferait éclater les petites vésicules venimeuses. Mmh. Faut pas rincer à l'eau douce, faut rincer très doucement à l'eau de mer. Oui. Et ensuite, asperger, alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est vraiment une recette des urgentistes de Nice qui ont l'habitude. Hein.
Oui.
Faut asperger avec de la mousse à raser, attendre un peu, et racler avec une carte en plastique, genre carte bancaire.
C'est pas
donc
vrai.
Il faut partir à la plage avec sa crème à raser,
oui.
Sa carte voilà. Bancaire.
Oui, ça, oui alors savez. Ça fait bizarre, mais maintenant...
Pour acheter des chouchous, ça va être difficile, mais...
Bah, oui. Comme vous êtes prévenu, c'est vraiment la meilleure des solutions.
Enfin, voilà. Cela dit, on peut prendre la carte vitale, parce qu'elle, au moins, elle
ouais,
servira.
Aussi direct. Comme
voilà. Ou la carte de fidélité
ou
du
la
magasin.
Carte de fidélité du magasin ou de l'hypermarché, ça peut être sympa.
Bon, on ne parle que d'animaux qui font un peu peur, mais il y en a plein qui sont super intéressants à regarder. Il y a plein de jeux dans le livre, il y a plein de choses.
Alors,
oui,
Marc,
bien
la nature,
sûr.
C'est quand même un bonheur. Hein.
Marc,
oui.
Je vous propose, de, parce que c'est évidemment, c'est, on passe un bon moment avec vous, on revient dans un instant, il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts, les animaux. Marc Giraud, Laetitia Barlerin, à tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Avec Marc Giraud, qui est journaliste naturaliste, on observe la nature en été avec évidemment un petit clin d'œil sympathique. Philippe sur Direct Studio Laetitia nous dit tout à l'heure on parlait que les papillons étaient on va dire attirés par la lumière. Il nous dit chez moi dans le Var j'ai des geckos sur le mur de ma maison et le soir quand j'allume la lumière de ma terrasse les papillons et moustiques viennent et les geckos se régalent.
Oui, parce que ce qu'on observe souvent aussi avec les geckos, et Marc, je pense que vous pensez la même chose, c'est qu'ils se mettent vraiment dans des endroits où ils savent qu'il va y avoir justement des choses à manger, donc près des lumières, et ils comprennent très vite que près de la lumière, les moustiques viennent plus facilement, enfin les papillons.
Ah ben les animaux sont très opportunistes, hein. C'est exactement comme les chauves-souris qui tournent autour des lampadaires. Hein. Ils savent très bien là où il y a de la bouffe et là où elle est bonne. Donc dans nos maisons, il y en a.
Et c'est pour ça d'ailleurs que les chauves-souris s'y tournoient autour de nous. C'est pas parce qu'elles veulent se mettre dans nos cheveux, ça aussi autre idée reçue, c'est parce que nous attirons les moustiques.
Ah oui, alors je voudrais pas être désobligeant, mais ce qui attire les moustiques, c'est pas la lumière, c'est notre odeur, nos odeurs de sueur et de pieds. Alors, ça veut pas dire que.
Oui, j'en parlais la semaine dernière.
Nos odeurs de pieds.
Oui, il paraît qu'ils aiment beaucoup les odeurs de pieds, les odeurs de fromage, quoi. Voilà.
Oui, aussi. Certains fromages hollandais, oui.
Donc, il faut pas sortir de. Il faut pas avoir des plateaux de fromage l'été sur la terrasse, quoi.
Voilà. Ils sont très attirés par ça. Et d'ailleurs, en Afrique, on a fait des pièges à moustiques avec des vieilles chaussettes. Ça les attire
non,
très
c'est
bien.
Non, c'est pas
ça
vrai.
Coûte pas cher.
C'est
oui,
pas
oui,
vrai.
Oui.
Des vieilles chaussettes, mais utilisées plusieurs fois.
Bah voilà, oui, mais les chercheurs sont prêts à tout.
Alors voilà, pour ne pas avoir de moustiques chez vous, vous mettez vos chaussettes dehors.
Oui, un ventilateur, ça parce que c'est pas des odeurs fortes, hein, faut pas croire que c'est un manque d'hygiène, mais eux ils sont très très sensibles à nos odeurs corporelles, donc ils nous renifent de très loin. Hein.
Mais le mieux pour les moustiques, c'est quand même d'avoir un peu d'air, enfin du vent, parce que si vous mettez un ventilateur par exemple,
la clim,
pour eux c'est la tempête, c'est le typhon, donc ils n'arrivent pas à vous toucher là.
C'est ça, puis de la citronnelle c'est bien aussi.
Et voilà, bien aussi. Hein, ça évite de mettre quand même des produits toxiques et des produits chimiques contre eux. Alors on découvre beaucoup d'animaux hein, dans la nature au fil des saisons dans votre livre, donc à chaque saison, et à un moment vous parlez pour le mois de juillet du scarabée bombardier. Pourquoi on l'appelle comme ça?
Oh, on l'appelle aussi scarabée péteur. Hein.
Ah.
C'est sa manière de... Alors, lui, il fait pas le mort. Lui, c'est une vraie bombe. C'est-à-dire que quand on l'attrape, il éjecte un acide, mais à 100 degrés. Hein. Et en plus, il peut péter 30 fois de suite. Donc,
non, c'est
vraiment,
pas vrai.
Ah ouais. Si on comprend pas. Et donc, ça fait très peur aux prédateurs. Sauf si le prédateur est un naturaliste. Et c'est arrivé à Darwin quand il était très jeune. Il adorait les coléoptères, il les collectionnait.
Oui.
Une fois, il soulève une souche, il voit deux scarabées, donc il en prend deux, et il envoie un troisième. Alors, comme un idiot, il le met dans sa bouche. Et c'était un scarabée péteur, et il a eu la langue brûlée pendant des jours et des jours. Et son seul regret, c'est pas d'avoir eu mal, c'est simplement d'avoir perdu son échantillon.
Mais quelle idée de le mettre dans sa bouche, de mettre un scarabée dans sa bouche.
Ben voilà, il était un peu jeune, mais il voulait absolument garder ses collections de coléoptères, donc il n'a pas réfléchi, voilà.
Ah, il a trouvé que ça comme poche, quoi.
Ouais. Ben, il avait que deux mains et il avait trois scarabées, donc voilà.
C'est pas vrai. Bon, parlons d'autre chose. Marc, je sais que vous êtes aussi porte-parole de l'ASPA, qui est l'Association pour la protection des animaux sauvages. Parlons du loup en France, parce que vous savez que cette semaine, il y avait une polémique comme quoi le loup était accusé de favoriser les incendies. C'est quoi cette histoire?
Alors c'est n'importe nawak. Ça vraiment. Les anti-loups crient au loup, mais j'en veux beaucoup aux journalistes qui sont assez bêtes quand même pour avoir colporté ce genre de rumeur.
Bah, le loup ne fume pas et ne laisse pas des mégots allumés quand même.
Non. Et en Corse, c'est là qu'il y a le plus de feu. Il n'y a jamais eu de loup. Donc il faut réfléchir 5 minutes.
Ah oui, c'est vrai.
La forêt méditerranéenne, ça fait 6000 ans à peu près qu'on a des problèmes d'incendie, et c'est justement, ça correspond au moment où il y a eu les premiers agriculteurs et les premiers éleveurs. Donc les troupeaux, on peut pas dire que ça lutte contre les incendies, et on peut pas dire que les loups sont responsables des incendies. C'est vraiment absurde, hein. Donc effectivement, aujourd'hui, les incendies en Méditerranée, c'est presque 100% d'origine humaine. Alors volontaire ou non, hein, ça peut être les barbecues, les mégots, les tessons de bouteille, enfin on sait tout ça. Hein.
Oui.
Mais le loup, c'est vraiment...
C'est n'importe quoi.
Ils sont
quoi.
Prêts à tout. Vraiment, c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Les anti-loups, ils sont prêts à dire n'importe quoi.
Ah bah oui, non mais accuser le loup des incendies, c'est ça, quand on m'a dit ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Et quand j'ai vu qu'on le reprenait dans la presse, etc., bref, je dis mais pourquoi ils le reprennent? Enfin,
Je croyais que c'était Logographie, vous savez, ce média ironique.
Oui, parodique, ouais, oui. C'est dingue.
Mais vous savez, à l'ASPAS, on fait des fois des manifestations pro-loup, et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui nous a dit très sérieusement, mais attention pour vos enfants, le loup est attiré par l'odeur du lait, il va manger vos enfants. Mais
ah oui, bien
sûr. Que c'était une blague, et il y croyait, le type.
C'est incroyable. Ah là là.
Bon, alors que pensez-vous de l'autorisation d'abattre 40 loups que vient de donner le gouvernement?
Ben, on est très déçus par Nicolas Hulot, hein. Ça, c'est Ségolène Royal qui avait décidé ça. Il nous avait dit qu'il serait du côté de la concertation. Ben, il n'y a pas eu de concertation. Et je sais bien que la situation est très tendue, que les anti-loups sont très violents et prêts à beaucoup de choses. Mais quand même, on attendait vraiment mieux. Parce que l'année dernière, c'était 36, ce qui est énorme. On a moins de 500 loups en France, même moins de 400. En Italie, il y en a 1500. En Espagne, il y en a 2500. Mmh. Et là, on supporte pas notre poignée de loups. On est prêt à stériliser la nature pour faire plaisir à deux ou trois excités, parce qu'il y a des bergers qui font super bien leur boulot. Hein. Être pour le loup, c'est pas être contre le berger, évidemment.
Bien sûr.
Mais bon, il y a des syndicats qui sont un peu violents, alors que le loup pourrait rapporter des sous. Avec l'écotourisme, comme on a fait aux États-Unis, à Yellowstone, depuis qu'il y a des loups, c'est des millions de dollars qui sont rapportés par les gens qui voudraient entendre ou voir les loups. Et on pourrait faire ça chez nous.
Bien sûr.
Bien sûr.
Marc, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci d'être dans ma dernière émission en direct. Vraiment, c'est un.
On se reverra dans d'autres chemins.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr, Marc.
Évidemment.
Bon vent.
Merci Marc. Merci.
Marc Giraud.
Et je vous conseille vraiment d'acheter le dernier livre de Marc Giraud qui s'appelle La nature au fil des saisons. Aux éditions Alary, vous apprenez beaucoup de choses sur les animaux dans notre nature. Et il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'identification, etc. d'animaux. Et ça, c'est super pour vos enfants, bien
dans
sûr.
Dans un instant, sur RMC, la météo, les infos. On revient avec Laetitia. Un bébé panda en France, les amis. Oui, il arrive. On va le suivre. Et puis l'actu juridique avec Maître Xavier. Et bah, à tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, Vos Animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h33. Dans une demi-heure, après la météo et les infos de 8h, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Jean-Luc Moreau qui était avec nous dans le Grand Rush hier, qui vous a donné plein de conseils. Jean-Luc qui répondra tout à l'heure à toutes vos questions auto. Et puis on reviendra aussi sur des conseils pour avoir des vacances sans soucis sur la route, avec notamment les locations de voitures. C'est vrai que les locations de voitures, la plupart du temps, ça se passe bien, mais faut-il souscrire des assurances? Est-ce qu'on vous propose toujours, hein, quand vous prenez justement une location? On verra ça, entre autres, avec Jean-Luc tout à l'heure et notre invité. Mais dans l'immédiat, Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, est toujours là. Laetitia, direction Beauval maintenant.
Le zoo de Beauval, oui. Parce que y a un heureux événement qui arrive.
Oh, c'est tellement mignon.
C'est tellement mignon. Nous sommes avec Rodolphe Delors, directeur général du Zoo Parc de Beauval. Rodolphe, bonjour, bienvenue.
Bonjour, Rodolphe.
Bonjour.
Alors, ça fait 5 ans que Wan Wan, la femelle, et Yanzi, le mâle, si je me trompe pas, les deux pandas sont arrivés à Beauval. Et ça fait autant d'années que le public attend, c'est un peu comme un couple princier, hein, on attend l'heureux événement. Quand vont-ils faire un bébé? Et là, c'est confirmé, la femelle attend un heureux événement. Alors, rappelez-nous d'abord pourquoi la vie sexuelle des pandas n'est pas si simple.
Déjà parce que c'est la gestation et la femelle est en chaleur seulement que 24 heures par an.
C'est
donc
pas beaucoup.
Une seule fois par an, 24 heures, ça dure donc très très peu de temps. La femelle ovule seulement quelques heures. Donc forcément, le mâle perd un petit peu sa libido. Nos pandas étaient un petit peu jeunes jusqu'alors.
C'est vrai.
Ils sont arrivés, ils étaient très jeunes. Ensuite, il y a deux ans, notre femelle panda n'a pas fait ses chaleurs. Mmh. Et l'année dernière, nous sommes pris un petit peu tard. Nos collègues chinois qui viennent au moment des accouplements et au moment éventuellement d'insémination artificielle sont arrivés avec deux jours de retard pour une question de visa.
Oui.
Et là, cette année, ça a fonctionné parfaitement. Donc, au mois de mars, lors des chaleurs de madame, nous les avons mis ensemble.
Oui.
Malheureusement, il n'y a pas eu d'accouplement. Ils ont tenté de s'accoupler, mais le mâle s'y prenait mal.
Ah.
C'est pour lui une première, il s'y prenait mal.
Vous n'avez pas montré des films?
Non. Et nous avons fait une petite insémination artificielle. Et une
bingo.
Très bonne nouvelle, la semaine dernière, lors de l'échographie pratiquée sur la femelle, nous avons eu un tout petit bébé à échographie.
Ça, c'est génial, bravo.
Et alors, elle va mettre bas quand?
Elle devrait mettre bas, logiquement, en fin de semaine prochaine, d'après nos analyses, entre 4 et 5 août.
Oui.
Donc, ce sera un tout petit bébé, parce que la durée de gestation est extrêmement courte chez le panda, seulement 55 jours.
C'est pas beaucoup, hein.
C'est très court, 50
surtout
à 55 jours.
Surtout pour un mammifère, ça veut dire que le petit est vraiment pas du tout formé, il est presque prématuré.
Ouais, il est prématuré, il ne pèse que 100 grammes, alors qu'un maman pèse un peu plus de 100 kilos. C'est vraiment tout petit.
Faut pas qu'elle le perde. Hein.
Mais vous allez me dire, il y a un problème. Hein. Vous avez inséminé la femelle panda au mois de mars, mais vous me dites que la durée de gestation ne dure 50 à 55 jours. Donc en fait, la femelle panda fait ce qu'on appelle une diapause embryonnaire, c'est-à-dire qu'après accouplement, elle stoppe le développement d'embryon dans son utérus et il va se développer cet embryon à un certain moment, beaucoup plus tard, entre le mois de juin et le mois d'octobre. Et là, nous avons pu, grâce à aux tests d'urine que nous réalisons tous chaque jour, voir que la femelle avait développé sa gestation, soit début de développement de la gestation, soit ce qu'on appelle une diapause embryonnaire, ça arrive aussi, pas une diapause embryonnaire, excusez-moi, soit une fausse gestation, ça arrive chez les pandas, quand la femelle panda n'est pas enceinte, elle peut faire aussi ce qu'on appelle une fausse gestation. Donc nous avions un doute entre les deux, fausse gestation ou réelle gestation. Et mercredi dernier, nos vétérinaires ont fait une échographie, et ils ont pu voir, ils ont pu avoir confirmation, ils ont pu voir ce bébé panda. C'est un moment extraordinaire pour nous, pour Beauval, pour les soigneurs, pour les vétérinaires.
Oui, on imagine. Et puis là, les Français attendent le bébé. Alors, vous dites une échographie, une analyse d'urine, ça veut dire que vous avez fait avec les pandas ce qu'on appelle le medical training, c'est-à-dire que vous l'avez habitué, par exemple, à avoir un échographe, une échographie pour qu'elle se laisse faire.
Voilà, tout à fait. La plupart de nos animaux sont entraînés pour ce qu'on appelle le medical training, pour être soignés sans stress, pour qu'on puisse détecter d'éventuelles maladies, ça peut arriver. Hein.
Oui.
Donc là, nos pandas sont entraînés pour uriner sur commande dans un petit gobelet. Pour faire les analyses. Ils sont entraînés pour prélever du sang également, et pour les échographies. Donc là, échographies a été pratiquée mercredi dernier, une autre vendredi, nous avons pu vendredi confirmer bien sûr la gestation. Il y aura d'autres échographies la semaine prochaine, juste avant la naissance. Et hier, deux soigneurs chinois sont arrivés de Chengdu pour nous aider lors de la mise bas de la femelle.
Alors justement, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu pour que tout se passe bien pour la maman et son bébé?
Eh bien déjà, la maman est actuellement au calme dans nos installations arrière. Donc oui. La maman n'est pour le moment plus visible du public, mais nous racontons tout au public en permanence. Oui. Elle n'est plus visible, elle est peut-être au calme.
C'est
elle fait un petit nid en bambou. Nous avons placé des caméras de vidéosurveillance et nous allons pouvoir suivre la naissance, suivre la mise bas.
Oui.
Et ensuite, nous espérons que la femelle, que Wanwan s'occupera parfaitement de son bébé. Et si elle s'en occupe pas parfaitement, parce que c'est son premier, c'est sa première mise bas, c'est son
premier bébé. Il y a un risque, voilà.
Il y a un risque qu'elle n'ait pas quoi, c'est les bons réflexes, les choses comme ça.
Il y a toujours un risque qu'elle ne sache pas s'en occuper. Donc à ce moment-là, nos soigneurs seront là pour aider, ainsi que les soigneurs chinois. Donc nous allons suivre ça.
Et vous avez tout
seconde,
installé.
24. Nous avons installé aussi
une maternité,
maternité. Mais nous allons tout faire pour que Wanwan s'occupe naturellement de son bébé, bien sûr.
Alors, il paraît que c'est notre première dame, Brigitte Macron, et la première dame de Chine qui vont choisir le nom du bébé.
Ah bien, c'est ce qui se dit. C'est un petit peu la tradition dans les parcs zoologiques, dans les pays où sont hébergés les pandas. Parce que vous savez, les pandas, c'est un symbole extrêmement fort. C'est le trésor national chinois.
Oui.
C'est un symbole de diplomatie, symbole d'amitié. Ces pandas ont permis de renforcer encore plus les liens franco-chinois. Ces pandas ont été confiés dans le cadre d'un programme d'élevage international, un programme de conservation d'espèces. Mais il fallait l'accord du président chinois directement au président français.
Fin
d'année 2011. Et aussi, les pandas, c'est le symbole des animaux menacés, des animaux en danger. Donc, c'est un symbole extrêmement fort et la naissance de ce bébé panda va pouvoir nous permettre de sensibiliser encore plus notre public au grand problème de disparition des espèces, au grand problème de disparition de notre biodiversité.
Alors, le public attend bien sûr la naissance et après attend de voir le bébé. À partir de quel âge les visiteurs pourront l'apercevoir et combien de temps restera-t-il en France? Parce qu'il va pas rester éternellement en France.
Écoutez, déjà, nous sommes en train d'installer des grands écrans. Donc notre public pourra suivre l'évolution du bébé sur place au zooparc de Vauvray quelques jours après sa naissance, donc d'ici petite semaine.
Mm-hmm.
Notre public pourra voir.
C'est Secret Story, votre
sur des écrans géants.
Secret Panda.
Voilà. Et ensuite, le bébé sera réellement visible à l'âge de 2 à 3 mois, lorsque la maman pourra sortir avec son bébé. Mais en attendant, le public pourra suivre son évolution et nous envisageons de tout raconter à notre public qui est vraiment demandeur.
Et
toujours dans un but de sensibiliser le public à la conservation de ces animaux extraordinaires.
Ah bah c'est sûr, parce que là, bébé panda, je pense que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de public. Et alors justement, le public pourra l'observer pendant combien de temps ce bébé? Parce qu'il ne va pas rester éternellement chez vous.
Mais vous savez, tous nos animaux sont gérés dans le cadre de programmes d'élevage internationaux, dans le cadre pour éviter la consanguinité et surtout nous sommes de véritables conservatoires génétiques d'espèces. Et donc tous nos animaux bougent à un moment donné, ils peuvent repartir dans d'autres parcs zoologiques, dans d'autres pays. C'est normal, c'est comme cela que ça fonctionne. Et bien notre bébé panda reste propriété du gouvernement chinois et repartira en Chine à l'âge de 3 à 4 ans. Et peut-être, sait-on jamais, pour être réintroduit dans une réserve du Sichuan, parce que au parc de Vauvray, nous finançons des programmes de conservation des pandas en Chine et notamment des programmes de réintroduction des pandas dans les réserves du Sichuan.
Mais ça veut dire que malgré tout, il restera des pandas à Beauval. C'est celui-ci qui partira.
Et deux parents resteront à Beauval
D'accord.
au moins jusqu'en 2022.
Okay.
Parce que notre partenariat prend fin normalement en 2022. Donc nous pouvons éventuellement faire la demande de garder les pandas plus longtemps au gouvernement chinois.
Pour avoir d'autres bébés.
Exactement.
C'est un peu comme c'est comme un appartement. On signe des baux, en fait, pour les pandas.
Voilà, c'est un contrat de partenariat entre le zooparc de Beauvais et à Chine, mais toujours dans le but de la conservation.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est très bien. Merci, Rodolphe.
Merci, merci Rodolphe. Oh, alors, on va suivre les prochains jours avec attention,
bah oui. Hein, oui.
Pour voir si le bébé arrive. Merci. Et puis, voilà, j'invite aussi, tous les spectateurs qui veulent aller voir les pandas d'y aller quand même, parce qu'il y aura cette fameuse télé qui pourra, les images où on pourra voir ce bébé panda. Merci.
Merci,
bonne
Rodolphe.
Journée.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Il est pratiquement 8h moins le quart. Et dans un instant, Laetitia, Maître Xavier Baquet sera là. Mais qui est ce monsieur?
Mais c'est notre spécialiste du droit de l'animal, quand même.
Écoutez, je ne
notre
le connais
pas. Notre spécialiste.
Je ne le connais pas. Il est sympa, Maître Xavier Baquet?
Je crois, oui.
Bon.
Oui.
Alors, on va le retrouver.
Il est
dans
surtout
une
très
minute.
Compétent.
C'est vrai? Ah, ben ça peut servir.
Ça peut.
3216animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
h 46, les amis, merci d'être là. Un excellent dimanche avec RMC. Tout à l'heure, à partir de 8h, l'automobile, hein, comme vous le savez, chaque dimanche, entre 8 et 10, Jean-Luc Moreau sera là. Mais dans l'immédiat, c'est Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Laetitia, Maître Xavier Baquet, donc. Mais franchement, que se passe-t-il?
Xavier, bonjour.
Allô, bonjour.
Notre
bonjour, maître.
Spécialiste du droit de l'animal.
Oui, eh oui.
Mais ça
oui.
Me dit quelque chose, ce nom-là.
Oui, vous croyez, vous savez, François a tout de même 12 ans bientôt.
12 ans.
12 ans. Et je suis
pas plus que ça. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça,
voilà,
qu'on se connaissait.
Moi ça fait 16 ans à RMC, mais c'est peut-être 12 ans que vous intervenez régulièrement dans cette émission.
Voilà. Donc un peu triste aujourd'hui, mais 12, voilà.
Voilà, c'est ma dernière en direct
ben
là.
Oui.
C'est tout drôle, mais je suis super heureuse d'avoir mon petit Xavier Baquet avec moi cette dernière.
Moi, j'ai vraiment vécu cette aventure avec vous. C'était un grand plaisir avec tous les deux. Laetitia, bien sûr, c'est une amie. François, je vous ai appris à vous connaître. Et c'était pour moi la radio. C'était le média le plus immédiat, le plus vrai, le plus nature. Donc le direct est là et ça me plaît. Voilà.
Oh, merci. Merci en tout cas, Xavier, d'avoir répondu pendant toutes ces années.
C'est vrai, combien de fois on vous a levé tôt, maître, le dimanche. Parfois, vous aviez la voix un peu éraillée. Je me disais qu'il avait fait un karaoké la veille ou peut-être enflammé les pistes du dance floor. Mais vous avez toujours répondu à l'appel.
Oui.
Toujours.
Toujours.
C'est un grand plaisir. Et puis les animaux, c'est vraiment ma passion.
Oui, c'est vrai.
Et ça s'entend.
Voilà,
C'est pas l'activité principale de mon cabinet, bien sûr, qui est le droit et les affaires, mais c'est tout de même ce qui me passionne le plus. Voilà.
Avec des combats que vous avez menés et que vous avez gagnés aussi, maître.
Tout à fait.
On s'en est rendu compte tout au long.
Grâce à vous.
Parce qu'on a mis en avant aussi la protection animale dans cette émission, ce qui est normal. Et on a fait, à notre tout petit niveau, on a fait un petit peu évoluer les
notamment
choses.
Notamment le changement du statut juridique de l'animal.
Et
ça a été quelque chose quand même de très très fort.
Hein. On en a parlé pendant des années avec Xavier, arrivé.
C'est arrivé et j'aimerais y associer, même si elle n'était pas à l'antenne, mais parce que c'est une amie, c'est une consoeur qui est extrêmement compétente également, qui est Eva Souplet. Et nous sommes, je pense, les deux avocats en France qui, spécialisés en droit de l'animal, avons fait en 20 ans, on va dire, et 12 ans avec vous, mais du moins en 20 ans pour nous deux, eh bien progresser le droit de l'animal. Alors le statut, la protection de l'animal, tout ce qui concerne l'animal. Et ça, grâce à vous, Média, qui l'avez mis en avant. Voilà, donc c'est fabuleux et c'est pour ça que je regrette que cette émission disparaisse. Parce qu'il va falloir retrouver une voie pour l'animal. Voilà.
Merci. Bon, allez, Xavier.
Bon, vous savez que Laetitia est sur France 5 et bientôt sur TF1 aussi, hein, maître.
Voilà.
Voilà.
Bon, on me verra au moins un petit peu à la télé, donc les mercredis, dans la quotidienne, sur France 5, à partir de 11h45, branchez votre télé, et puis à la rentrée dans un programme animalier qui s'appelle La vie secrète des chats sur TF1 le dimanche.
Eh ben, très très bien. Très bien.
Alors, pour revenir à nos moutons, n'est-ce pas, Xavier?
Alors, on va parler de moutons, donc.
Non, parlons de choses. Vous savez que l'été, le grand problème, enfin le grand risque pour nos animaux, c'est le coup de chaleur. Et le coup de chaleur qui est vite mortel, surtout si on met l'animal dans une voiture. Alors, on se dit bah la voiture elle est à l'ombre, il ne risque rien, et ben l'ombre, le soleil change, la voiture n'est plus à l'ombre et en quelques minutes l'animal peut mourir de ce coup de chaleur.
Alors tout à fait.
Quand on voit, alors que dit la loi? Parce que quand on voit par exemple un animal, voire même un enfant, hein, parce que ça est arrivé aussi, dans une voiture, qu'il suffoque, est-ce qu'on peut casser la vitre pour aller sauver cet animal? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, pour la loi, c'est très simple. Le fait de laisser un animal qui pourrait être trouvé mort est qualifié de sévice grave. Donc, 521 du code pénal.
Même si c'est son animal, voilà.
Voilà. Donc, 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Maintenant, si vous êtes un tiers, que vous voyez ça, dans l'urgence, effectivement, même si la loi vous le permet pas stricto sensu, dans l'urgence, vous pouvez briser la vitre pour sauver l'animal, parce que ça serait non-assistance, si je puis dire, à animal en danger. Alors, effectivement.
Et ça, c'est, entre parenthèses, est-ce que non-assistance à animal en danger, c'est prévu par la loi?
Et non. Et c'est encore un combat qu'on veut mener. Parce qu'effectivement, c'est une notion qui n'existe pas pour l'animal et qui, maintenant, grâce à la modification du Code civil sur le statut d'animal, devrait pouvoir exister aussi en droit pénal. Donc, vous devez le faire s'il n'y a pas d'autre moyen d'alerter des forces de police qui seraient en présence à proche du véhicule.
Et qui, ont l'autorisation de le faire.
Voilà, parce que eux peuvent le faire. Et si d'aventure le propriétaire se retourne contre vous parce que vous avez atteint sa propriété privée, parce que c'est ça dont il s'agit aussi, je parie tout ce qu'il faut que la juridiction sera être clémente, parce qu'en face de ça, vous avez sauvé une vie. C'est une vie animale, mais vous avez sauvé une vie. Voilà.
Et oui, parce que alors quand même le propriétaire qui se retourne contre vous parce que vous avez cassé la vitre de sa voiture,
ça arrive. Ça arrive. Mais bon, ça tient pas. Enfin, ça peut tenir juridiquement sur le papier, si vous voulez. Mais le juge statue aussi en équité et regarde les faits. Donc généralement, ce sont des plaintes qui n'aboutissent pas. Voilà.
Alors l'été, c'est tristement aussi la saison où les animaux sont le plus abandonnés. On parle de 60 000 abandons d'animaux chaque été. Mmh. Alors, vous savez, il y a certains auditeurs qui nous parlent de choses incroyables. C'est par exemple de voisins qui ont un chat ou des chats qui partent en vacances et qui laissent les chats. Ouais. Alors, tout comme moi, j'ai très souvent aussi des cas de personnes qui déménagent et qui laissent la maison ou l'appartement avec le chat ou le chien d'ailleurs. Est-ce qu'on est dans le cas d'abandon là?
Alors, la notion d'abandon telle qu'elle est décrite populairement, publicitairement, il faut faire très attention. Là, si vous laissez l'animal chez vous, alors un chat, c'est un animal qui est errant, donc c'est un peu plus complexe.
Laisser sans manger.
Alors si c'est sans manger, sans eau, sans rien, oui, c'est un abandon, bien sûr. Et bien sûr, parce que ça, on peut arriver à ce qu'on appelle un état de cachexie, donc la maigreur extrême qui aboutit à la mort, si vous voulez. Donc oui.
Non, mais même si le chat sort, parce que les gens se disent, oh bah mon chat il sort, il ira manger chez les voisins.
Mais il n'en demeure pas moins que
c'est de l'abandon pour moi.
Oui, mais s'il sort et qu'il ne peut pas remplir ses besoins physiologiques parce que son propriétaire est parti, ça peut être qualifié d'abandon, bien évidemment. Si jamais le chat est retrouvé dans un état qui est de dégradation importante, si vous voulez. Bon, donc on ne peut pas, en clair, le maître mot, c'est vous ne pouvez pas laisser votre animal qui dépend de vous, parce que l'animal dépend toujours de l'homme, qui dépend de vous, livré à lui-même plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce que là, effectivement, vous exposez à avoir qualifié votre acte d'abandon. Maintenant, je retourne et abandon qui devient donc un délit, si vous voulez, sanctionné par la loi.
Passible de
2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Mmh. Et par contre, si vous allez vers un refuge, que vous laissez votre animal parce que vous dites bon, je peux plus m'en occuper, là, c'est ce qu'on appelle populairement, on qualifie ça d'abandon. Mais ce n'est pas juridiquement un abandon. Vous voyez, c'est cette petite nuance-là. Oui. Parce que là, pour le coup, vous faites un don.
Don à l'association.
Voilà. Mais bon, populairement, on dirait c'est un abandon. C'est pour ça que sur les chiffres, dire 60 000 abandons, 100 000 abandons, j'en sais rien. Les chiffres, de toute façon, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Ce qui est certain, c'est qu'il y a trop de gens qui ne se préoccupent mal ou pas, ou plus de leur animal, et que ça, il faut arrêter. Mieux vaut ne pas en avoir. Regardez-moi, par exemple, je travaille avec l'animal tous les jours, mais ma vie est telle que je ne suis pas 2 jours au même endroit, j'ai plus d'animaux chez moi. Donc, je profite des animaux des amis, mais je n'ai plus chez moi, je ne peux plus en avoir, parce que je ne peux plus m'en occuper correctement. Il faut être aussi lucide par rapport à ça.
Et alors, les cas de changement de maison, enfin, quand on arrive dans une maison et qu'on voit, mais moi, même moi, ça m'est arrivé, le cadeau, c'était le chat qui était avec la maison. Et il y a même des appartements où on arrive dans l'appartement qu'on a acheté ou qu'on vient de louer et il y a un chat dans l'appartement qui est laissé par le propriétaire qui dit, oh, bah, de toute façon, le chat est très territorial, je préfère le laisser dans sa maison. Est-ce que on peut se poursuivre ces propriétaires pour abandon?
Oui, enfin, c'est compliqué. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, là, pour le coup, délibérément, il se délaisse de son animal. Donc, on peut attaquer sur l'abandon. Mais s'il y a un avocat en défense qui creuse un peu la jurisprudence, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que la jurisprudence, comme le législateur n'a jamais qualifié la notion d'abandon, si vous voulez, c'est la jurisprudence qu'il a construite. Et généralement, on considère qu'il y a abandon, qu'un animal n'est plus nourri, n'est plus abreuvé. Et que, je vous dis encore une fois, ça met en cause son équilibre physiologique. Là, si vous arrivez dans l'appartement que vous achetez, on vous dit, bah, tenez, il est là, l'animal, je le laisse. Par définition, vous, bah, si vous avez du cœur, vous allez vous en occuper. Donc, les besoins physiologiques, vous allez les remplir, vous voyez. Voire même, vous irez dans un refuge porter l'animal. Donc, moi, je le ferai en tous les cas. Parce que, comme je dis toujours, il faut faire avancer la jurisprudence. Donc, je le ferai avec ce bémol de voir comment le juge réagirait.
Maître, merci beaucoup.
Merci.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne route. Et puis, Laetitia, je suis sûr qu'on va continuer à se croiser, se voir, peut-être
bien
même travailler ensemble.
Bien sûr. Bah, voilà. Je serai
mais
toujours
moi,
dans.
Plus, vous voulez plus me voir, maître.
Mais voilà. Si, François. Mais,
ah bon, d'accord, j'ai eu peur.
Mais vous êtes dans les voitures. Mais moi, vous savez que j'adore la radio. Donc, si un jour vous avez besoin
d'accord,
d'un avocat,
okay.
Oh, animaux, mais je suis là, François.
Ça va.
Bien sûr.
Bon, bah, de toute façon,
bientôt,
vous
maître.
Savez, Xavier, que je serai toujours dans la protection animale et dans le bien-être des animaux. Donc on va se retrouver et voilà, c'est ma dernière émission en direct.
Mais on vous retrouve tout l'été quand même. Hein,
mais on me retrouve tout l'été parce qu'on a enregistré des émissions
bien
pour
sûr.
Le mois d'août, bien sûr.
À bientôt, maître.
Merci
Xavier, merci à tous, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Voilà, ce fut 16 années de bonheur dans cette émission, 16 années un honneur de vous réveiller tous les matins quand même, hein, tous les dimanche matin. Je garde beaucoup de grands souvenirs avec vous François, avec vous tous qui nous écoutez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Je vous dis au revoir et je vous embrasse bien sûr.
Voilà, mais ce n'est pas terminé puisque Laetitia est encore pendant 3 semaines avec nous.
Voilà, et à la télé après.
Bien
voilà,
sûr, France 5,
la quotidienne et sur TF1 dans La vie secrète des chats.
Bon, alors Laetitia, malgré tout, vous avez le numéro personnel de Jean-Luc Moreau, il pourra toujours vous trouver
oui.
Ce modèle de véhicule que vous voulez avec des banquettes rabattables.
Non, mais j'ai appris qu'on pouvait pas laisser sa belle-mère, même si elle était très territoriale, parce qu'en fauteuil roulant, on peut pas la laisser quand on vend sa maison, ça on n'a pas le droit. Que si une fille abandonne un cochon, elle est passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Et ça, c'est bien d'inverser un peu les rôles.
Ben voilà.
Moi, je trouve.
Ça peut arriver. Donc, c'était très intéressant.
On a appris des choses quand même durant toutes ces années.
On apprend tout le temps des choses, mais je vais être obligé de. Moi, j'aurais le privilège d'avoir une émission personnelle, puisque j'appellerai Laetitia à chaque fois que j'aurai une question, bien évidemment.
C'est ça.
Et je vais en avoir, en avoir tout le temps.
Et si vous voulez me poser des questions, et si vous voulez me suivre, vous avez ma page Facebook, Laetitia Barlerin, Miss Veto. Vous mettez j'aime.
Et puis le compte Twitter de Laetitia aussi. Et
voilà.
Laetitia,
merci,
on se retrouve donc la semaine prochaine et durant tout l'été sur RMC. Et dans un instant, après la météo et les infos, eh bien, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. 2 heures dédiées à l'auto. À tout de suite.
Merci à tous.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.